Bien, donc je vais peut-être commencer par rappeler un certain nombre de choses que j'avais dit la dernière fois. Donc tout d'abord que le bouddhisme qu'on appelle en Chine le bouddhisme Chan, alors, je précise que pour ce qui est de la transcription des termes chinois, il y a plusieurs méthodes. La méthode que j'utilise est la méthode dite du pinyin, qui est la méthode mise au point par la Chine populaire et qui est utilisée internationalement de plus en plus. Mais il y a d'autres transcriptions. Il y avait une transcription française, on appelait la transcription de l'école française des frères Morillon, dans laquelle, selon laquelle, Chan s'écrivait T-C-H-A-N, ce qui est beaucoup plus proche de la prononciation chinoise. Et il existe une troisième transcription importante, qui est la transcription utilisée dans le monde anglo-saxon, donc dans les livres en anglais en général, qui est celle-ci, Chan. Voilà. Et Chan, c'est donc la prononciation chinoise, c'est un terme qui se prononce en japonais Zen. Et le Chan est donc le nom d'une école bouddhique qui est née en Chine aux alentours du 5e, 6e siècle. Le bouddhisme lui-même est arrivé en Chine à la fin du 1er siècle. On retient en général comme date celle de 65, qui est la date à laquelle on a le témoignage d'un culte qui est rendu au Bouddha. Et ce bouddhisme est arrivé en Chine à la fois par voie maritime et par voie terrestre, en passant par l'Inde, le Tibet, ou en passant par l'Asie centrale et ce qu'on a appelé les routes de la soie. Ce bouddhisme s'est implanté en Chine. C'était d'abord la religion, en fait, ou la pensée d'étrangers qui avaient eu l'autorisation d'observer leur propre culte en Chine. Puis petit à petit, ce bouddhisme a, on peut dire, conquis la Chine, s'est développé en Chine grâce d'abord aux traductions des textes, la plupart du temps c'était des traductions qui se faisaient du sanskrit ou de langues de l'Asie centrale, grâce aux pèlerins qui allaient dans les deux sens, de Chine en Inde et d'Inde en Chine, et surtout grâce au soutien politique et au soutien des familles impériales. S'il n'y avait pas eu le soutien, ou au contraire les oppositions, à d'autres reprises de ces familles impériales, le bouddhisme ne se serait pas implanté de cette façon-là. La Chine, dont je vais, pendant la période que l'on va voir, puisqu'aujourd'hui je vais plutôt vous développer l'évolution du bouddhisme Chan et la formation de différentes écoles, de différents courants. Toute cette évolution se déroule sur à peu près 5 ou 6 siècles de l'histoire de Chine. Et l'histoire de Chine est présentée selon ce qu'on appelle des dynasties. Donc je vous rappelle les principales dynasties. La dynastie qu'on appelle la dynastie des Han, où la Chine est unifiée. Et c'est la période qui va du 2e siècle avant notre ère au 2e siècle après notre ère. C'est la période d'unification de la Chine, celle où le bouddhisme arrive en Chine et s'implante en Chine. Puis après, on a une période de morcellement de la Chine, dans ce qu'on appelle les six dynasties. C'est-à-dire qu'il y a des royaumes chinois au sud, et des royaumes aux mains de ce que les Chinois appelaient les barbares, aux mains d'étrangers au nord. Et c'est à cette période-là que le bouddhisme va se développer, parce que les royaumes étrangers, les souverains des royaumes étrangers, étaient pour la plupart d'obédience bouddhiste. Donc ils ont favorisé le bouddhisme, ils ont favorisé la pénétration du bouddhisme. Et c'est pendant ces six dynasties, donc cette période de morcellement, que Bodhidharma, le fondateur présumé du bouddhisme Chan, arrive en Chine d'abord vers le sud, donc dans les dynasties chinoises, et comme il est mal reçu, semble-t-il, il va vers le nord, il passe chez les barbares, chez les étrangers, et il va s'installer donc au temple Shaolin. Puis on a une période de réunification de la Chine, qu'on appelle la dynastie des Tang, qui va de 618 à 907, et qui est un âge d'or, une très grande période de développement du bouddhisme chinois, avec une sinisation de plus en plus forte du bouddhisme et le développement d'écoles du bouddhisme Chan, non seulement par une lignée qui va aller jusqu'au sixième patriarche, mais à partir de là, par une éclosion en une multitude d'écoles. Cette période, cette dynastie des Tang, est divisée en gros en deux parties, avec entre les deux une révolte d'un étranger qui a duré 6 ou 7 ans, mais qui fait que dans la seconde partie des Tang, la situation est plus précaire, le pouvoir central est moins fort. Et c'est justement pendant cette période, la seconde partie des Tang, que ce bouddhisme Chan va se développer et va se réfugier plutôt vers le sud de la Chine. Et vers la fin des Tang, donc vers entre 840 et 845, il va y avoir en Chine un grand mouvement de proscription du bouddhisme. Le bouddhisme est considéré comme une religion étrangère, ainsi que des formes chrétiennes telles que le manichéisme, d'autres religions étrangères. Donc, on va mettre tous les moines à la vie laïque. Et cette proscription, c'est une des grandes proscriptions du bouddhisme dans l'histoire de Chine. Il y en a eu 3, en fait, importantes. Cette proscription, en fait, on la présente toujours comme un événement qui va marquer le déclin du bouddhisme chinois. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Très rapidement, le bouddhisme va revivre, et le bouddhisme Chan, plus particulièrement le bouddhisme Zen. Et enfin, donc après, donc à partir du Xe siècle, à nouveau, la Chine va éclater en morceaux. C'est ce qu'on appelle les 5 dynasties, parce qu'il va y avoir plusieurs royaumes. Et c'est entre la fin des Tang et les 5 dynasties que les grandes écoles du bouddhisme Chan vont se former. Et enfin, la dynastie suivante s'appelle la dynastie des Song.
Il va de 960 à, j'ai oublié, 1279, voilà.
Qui se divise elle-même, alors qui est une période de réunification de la Chine. Mais cette dynastie des Song va se diviser elle-même en deux, avec ce qu'on appelle les Song du Nord. La capitale est dans le nord de la Chine, un endroit qui s'appelle Kaifeng. Et les Song du sud, parce que sous la pression des Turco-Mongols, de tous les étrangers, le nord est envahi progressivement, et le gouvernement chinois se réfugie au sud en prenant comme capitale Hangzhou, qui est une ville au sud de Shanghai, en gros. Hein, une ville pas très loin de la mer, au sud de Shanghai, et qui a été donc la capitale des Song du Sud. Et cette période des Song, en général, cette dynastie, c'est la grande période du bouddhisme Chan en Chine. Et c'est aussi la période durant laquelle les relations entre la Chine et le Japon vont s'accroître, en tout cas du point de vue des religions.
Est-ce qu'on peut situer ces deux villes sur la petite carte que vous nous avez donnée ? C'est où ils sont en plus sur les bords?
Non, non, non. Ah oui, bah alors, attendez, je vais prendre mes documents dans ce cas-là.
Vous en avez repéré un?
Bon, si vous prenez la carte de Chine, vous avez Pékin qui est là, Kaifeng qui est là, Shanghai qui est là et Hangzhou qui est là.
D'accord.
Et j'en profite alors, je vous la remontrerai. Oui. Alors, ça, ça c'est justement, ça, c'est, vous avez Shanghai qui est là. Il n'est pas marqué, mais il est là. Hein, à l'embouchure du fleuve bleu, le Yangtze. Voilà, Shanghai. Donc ça, c'est la partie, c'est un grossissement de cette partie de la Chine. Voilà. Et ce que l'on va voir, c'est-à-dire les 5 écoles du bouddhisme Chan que je vais vous présenter, sont des écoles, on est à cette période-là, justement, sont des écoles qui se situent dans le sud de la Chine. Vous avez ici le fleuve bleu, hein, et tout ça, ce sont les provinces dans lesquelles sont situées les montagnes qui vont être le lieu d'implantation de ces grandes écoles. Alors, Shanghai est là, et Hangzhou est ici, voilà, pas très loin, au bord de la mer. Donc, vous avez cette première province au sud de Shanghai et de Hangzhou, et qui contient Hangzhou, qu'on appelle la province du Zhejiang. En dessous, ici, vous avez la province du Fujian. Au milieu, là, c'est toujours, on est toujours au sud du fleuve bleu, vous avez la province du Jiangxi, qui est la province et là où se sont trouvées toutes les pépites des grands maîtres Chan à cette époque, et à gauche, la province du Hunan. Voilà. C'est vraiment sont les lieux principaux de développement de ces 5 écoles. Donc le bouddhisme Chan, et c'est pas à peine que je rappelle l'origine du nom, hein, ça vient de Tiana, bon voilà. Le bouddhisme Chan, c'est comme d'autres écoles, des écoles dites chinoises du bouddhisme, c'est-à-dire que bien qu'elles soient fondées sur la théorie bouddhique indienne et sur les grands sutras, ces écoles chinoises ont des particularités. Je vous en avais donné 3. La première, c'est qu'elles sont fondées en général sur un sutra de base, ou en tout cas un ou 2 textes de base. La deuxième, c'est qu'elles sont en général liées à un territoire, à un lieu particulier où elles vont se développer. Donc c'est plus une question souvent de lieu et de, pourrait dire, de charisme du maître qui développe cette école que de pensée et d'idéologie. Et enfin, ce qui en fait aussi une école chinoise, c'est qu'elle refond une famille, la famille des Shakya, c'est-à-dire qu'elle reprenne le système social chinois de la famille avec et dans le système confucéen. Ce qui était important, c'était la transmission de père en fils, ce qu'on appelait la transmission patrilinéaire, avec le culte des ancêtres. Donc on transmettait, si vous voulez, un héritage familial de père en fils, et là on va transmettre un héritage familial dans l'école bouddhique, non plus de père en fils, mais de maître à disciple. Mais au fond, c'est presque la même chose, parce qu'un disciple est le fils spirituel du maître qui est le père. Donc cet établissement de lignée n'est pas propre au bouddhisme Chan. Il y a 3 grandes écoles chinoises. Qui présente des similitudes et qui à l'origine d'ailleurs n'était pas différencié en 3 écoles. C'est l'école de l'Avatamsaka Sutra, ou Sutra de l'ornementation fleurie, l'école du Tiantai, ou de la terrasse céleste, en japonais Tendai, bien que le Tendai japonais soit différent, et l'école du Chan. Ces 3 écoles sont fondées sur des sutras de base, L'Avatamsaka est fondée sur le sutra de l'ornementation fleurie, l'Avatamsaka Sutra. L'école Tiantai est fondée sur le sutra du lotus. Et le Chan était fondé à l'origine sur le Lankavatara Sutra.
Ou le Lankavatara Sutra, ou le sutra de l'entrée à Ceylan.
Le sutra de l'entrée à Ceylan, à Sri Lanka, qui ici est un lieu mythique. C'est pas...
Et ces trois écoles sont très proches parce que toutes les trois, elles insistent sur la pratique du Chan, c'est-à-dire la pratique du Dhyana,
ou la pratique de la, ce qu'on appelle, de manière un peu simplifiée, la méditation. Donc j'en viens maintenant à l'école du Chan, donc, qui va donc établir une lignée de transmission de maître à disciple, qui commence avec Bodhidharma, jusqu'au sixième patriarche, Huainan. Et à partir du sixième patriarche, du cinquième patriarche, en fait, il va y avoir division entre ce qu'on appelle l'école du Nord et l'école du Sud. Dans les premiers développements du bouddhisme Chan, il est en fait indiqué aux disciples de contempler son esprit, de le purifier progressivement de ses voiles pour que la lumière intérieure se développe et que l'on puisse voir la nature de Bouddha qui est présente en chacun de nous. Ce point de vue, c'est le point de vue de l'école du Nord qui est donc symbolisé par la stance que le successeur de l'école du Nord au cinquième patriarche, Shunshu, aurait écrite. Et cette stance est la suivante. Le corps est l'arbre de l'éveil. L'esprit est un pur miroir sur sa monture. Je m'efforce de l'épousseter afin qu'aucune poussière ne s'y dépose. C'est donc cette idée progressive de purification, de contemplation progressive de l'esprit. Huainan, donc le sixième patriarche d'après la tradition, et qui représente l'école du Sud, en contrepartie, représente une position dans laquelle on insiste sur l'importance de supprimer tout support, y compris le fait de contempler son esprit, l'idée qu'il y a un esprit à purifier, l'idée qu'il y a un cheminement et l'idée qu'il y a une purification. D'emblée, cette école se situe dans l'absolu et dans la position radicale de l'école du juste milieu, de l'école du grand véhicule du juste milieu, considérant que tout est originellement parfait et que c'est seulement la reconnaissance de cette nature de Bouddha en soi qui donne l'accès à l'éveil, et que cet accès est un accès subi. Soudain, un accès dans lequel le monde absolu, l'aspect absolu et l'aspect phénoménal des apparences et des phénomènes sont saisis simultanément. Dans cette idée de soudain, il y a aussi l'idée de simultanéité. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est la simultanéité de l'expérience absolue ou de l'expérience phénoménale qui est comprise soudainement. Donc l'accès est soudain. Et Huainan donc, va écrire ce poème. Il n'y a pas d'arbre d'éveil, ni de clair miroir sur une monture. La nature de Bouddha est originellement pure, où la poussière pourrait-elle s'attacher? Donc cette stance est exposée dans le Sutra de l'Estrade qui est attribué à Huinong, dans lequel on peut dire qu'il y a aussi culture conjointe, culture simultanée
du dhyana, c'est-à-dire de la concentration, de la contemplation et de la prajna, cette intelligence de l'esprit, cette sapience qui fait voir les choses telles qu'elles sont.
Et Huinong insiste bien dans son Sutra Lestrade sur le fait que ce sont les deux faces d'une seule et même chose, c'est-à-dire que plus la concentration augmente, plus la sapience augmente, et inversement. Cette sapience, prajna, est une notion qui est reliée essentiellement à l'idée de vacuité. C'est-à-dire que cette expérience de l'éveil, ce but que l'on cherche à atteindre, est vide, et vide en ce sens qu'il ne peut pas être décrit. Il est au-delà du temps et de l'espace, il ne peut pas être décrit, il ne peut pas être saisi, on ne peut pas dire qu'il existe, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Et pour qualifier cette prajna ou cette vacuité, très souvent, on va utiliser la négation. C'est pour ça qu'on va avoir apparaître dans cette école du Sud du bouddhisme Chan, par exemple, la notion en chinois de wuxin, non esprit. Donc, en japonais, ça doit être wu.
Wuxin,
voilà. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour justement que l'apprenti ne s'attache pas à cette idée qu'il y aurait un esprit existant. Donc pour aller au-delà, ce terme de wu ou de mu, qu'on va retrouver utilisé par la suite dans les koans, et n'est pas à prendre comme une négation opposée au oui, mais comme quelque chose qui permet d'aller dans la non-dualité, dans ce qui est au-delà du oui et du non. Donc ça, c'est en fait la tradition, la présentation légendaire et traditionnelle du Chan. L'histoire est un peu plus compliquée, assez différente. En fait, l'école du Chan à proprement parler remonte à un disciple de Huinong, le sixième patriarche, qui s'appelait Shen Hui, qui a vécu de 668 à 760, Huangzi en japonais, combien j'ai dit, 668-760, et Shen Hui a été un maître qui était très apprécié d'une impératrice chinoise, l'impératrice Wu Zetian, qui s'était déclarée elle-même comme l'incarnation d'un bodhisattva, et qui a ce qui s'est appuyé sur l'église bouddhique pour son autorité. Et donc c'est grâce à elle, au fond, et avec son amitié avec de grands maîtres Chan, que le Chan est vraiment devenu une école avec une supériorité du bouddhisme, à son époque, du bouddhisme Chan du Nord, et à l'époque de son successeur, du bouddhisme Chan du Sud. Peu importe, en tout cas, c'est le bouddhisme Chan du Sud qui va être dominant par la suite. Et à partir de ce sixième patriarche, au fond, il n'y a plus d'établissement de lignée, mais éclatement en une série d'écoles du Chan. On passe donc progressivement au 8e siècle, donc en plein milieu de la dynastie des Tang. Et ce 8e siècle, c'est un âge d'or du Chan. Le Chan va se répandre au Tibet, il va se répandre aussi, enfin c'était déjà répandu un petit peu avant, mais surtout à partir de cette époque, en Corée et progressivement au Japon. Peu après le 8e siècle, donc, le Chan...
On s'est dit que la dynastie des Tang était divisée en deux, avec au milieu une révolte, qu'on appelle la révolte d'Anushan, qui a eu lieu aux alentours de 762. Donc on est à la fin du 8e siècle. À la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle, on rentre dans, vraiment dans l'âge d'or de toutes ces écoles du bouddhisme Chan, qui va se situer, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, dans le sud de la Chine. Au sud, au fond, au sud du fleuve bleu. Cette histoire du Chan va être réellement écrite seulement à la dynastie suivante, les Tang, la dynastie des Song, qui va de 960 à 279. C'est sous cette, alors sous la dynastie des Song, on voit apparaître une littérature particulière au Chan. C'est ce qui va permettre aussi à cette école de se développer. Cette littérature propre au Chan, c'est tout d'abord toute une série d'histoires, de généalogies des maîtres et des disciples depuis le début, qu'on appelle les annales de la transmission de la lampe. Transmission de la lampe, c'est la transmission spirituelle de maître à disciple qui est typique de cette école du Chan. On voit aussi apparaître une littérature très... très populaire, parce que contrairement aux autres écrits chinois qui étaient écrits dans une langue lettrée, très difficile à comprendre, ces entretiens sont écrits en langue vernaculaire, en langue parlée, donc vraiment très accessible à tout le monde. Alors ce deuxième type de littérature, ce sont les entretiens de maître Chan. Donc les grands maîtres Chan ont eu des entretiens, sont des dialogues entre les maîtres et les disciples qui ont été consignés par écrit, et qui sont passés donc à la postérité, et qui sont au fond les sources principales à partir desquelles se sont formées ces idées que l'on a d'une école du Chan avec ce rapport particulier de maître à disciple, l'emploi de moyens qui ne sont pas des moyens ni rationnels ni conceptuels, mais d'autres méthodes de transmission et d'enseignement de maître à disciple. Et enfin, on va voir apparaître plus tard des recueils de ce qu'on appelle les Gong'an en chinois, en japonais Ko'an, qui sont tirés pour la plupart soit des annales des transmissions de la lampe, soit des entretiens des maîtres Chan, et qui racontent qui sont des dialogues entre maîtres et disciples. Bien souvent, d'ailleurs, des dialogues qui sont ceux que le disciple, enfin, ceux qui ont lieu lorsque le disciple est prêt d'atteindre l'éveil ou va atteindre l'éveil ou est éveillé. Donc, ce sont des dialogues significatifs du fait qu'ils témoignent de la situation dans laquelle un disciple va, auprès d'un maître particulier, connaître cette expérience de l'éveil. En tout cas, c'est sous à cette époque des Song, la sinisation de l'école est encore plus forte que sous les Tang, et les empereurs vont non seulement
soutenir le bouddhisme Chan, mais vont faire de cette école l'école la plus importante parmi les autres.
À partir des Songs, il va y avoir ce qu'on appelait les grands monastères. Qui sont sous l'autorité de l'empereur et qui sont appelés des monastères Chan. C'est-à-dire, c'est seulement à cette époque, en gros au XIe siècle, que les monastères vont devenir spécifiquement monastères de cette école du Chan. Donc le Chan devient, en fond, la force dominante dans le bouddhisme institutionnel. Et les grands monastères Song sont des monastères publics, patronné par la cour, administré par l'État. Donc la vie dans ces monastères est de plus en plus ritualisée, institutionnalisée, avec des liturgies quotidiennes et mensuelles, des cérémonies pour l'anniversaire du Bouddha, des débats, des serments, mais aussi des cérémonies pour l'anniversaire ou le décès des membres de la famille impériale. Donc on voit vraiment qu'il y a à ce moment-là un rapport très étroit entre le bouddhisme Chan et le palais impérial, encore plus qu'auparavant. Et ces monastères pouvaient abriter plus de 1000 moines. Enfin, c'était vraiment des monastères très, très importants qui étaient soutenus, évidemment, par l'élite culturelle et politique. Et surtout, à cette époque, le Chan est présenté comme le vrai bouddhisme par opposition au bouddhisme dévoyé avec ses aspects religieux. Un lettré va écrire au XIe siècle « Quand le bouddhisme pénétra en Chine par l'intermédiaire des moines indiens, les Chinois ne connaissaient pas leur doctrine et s'efforcèrent de comprendre leurs idées. Maîtres et disciples se succédèrent pendant des centaines d'années. Ils parlaient chaque jour de paradis et d'enfer, de rétribution du bien et du mal, uniquement pour que le peuple construise des temples et des stupas, vénère le Bouddha avec des rituels et soutienne les moines. Puis, Bodhidharma vint pour convertir les êtres. Il transmit alors la voix du Bouddha, dénuée d'absurdité, sans se détacher de l'aspect prosaïque. Ils possédèrent naturellement le véritable éveil. » Donc déjà à cette époque, le XIe siècle, on peut dire que le bouddhisme Chan se présente comme un bouddhisme qui n'est pas bouddhique à proprement parler, en tout cas qui est déjà dégagé, purifié de tous les aspects qui sont qualifiés à l'heure actuelle dans la Chine contemporaine de superstition. Un aspect à condamner. Donc c'était aussi, vous vous en doutez, une façon pour le bouddhisme Chan de s'adapter après la proscription du bouddhisme, en présentant un bouddhisme rénové et dégagé de tout ce qui pouvait choquer dans la culture chinoise. Et c'est vraiment dans ce contexte et à cette période qu'on voit apparaître les grands proverbes, les grandes phrases qui caractérisent le bouddhisme Chan, comme par exemple « Ce bouddhisme est un enseignement hors des Écritures. Ce bouddhisme est un enseignement qui ne s'appuie pas sur les textes. Le bouddhisme est un enseignement, bouddhisme Chan, est un enseignement qui cherche à montrer directement l'esprit de l'homme. C'est un bouddhisme où on cherche à voir sa nature innée et accomplir la nature de Bouddha, accomplir la bouddhéité. » Donc le Chan devient, on pourrait dire, en sorte la norme du bon bouddhisme. Et c'est aussi à cette période des Songs que va apparaître le texte qui est attribué en général à Baijiang, sur le code monastique, hein, sur les règles dans les temples Chan. Baijiang, c'est...
Yakujo.
Voilà. Yakujo. Donc, on attribue toujours ces règles à Yakujo, mais non. On sait qu'elles ont été écrites plus tard, au fond, uniquement au XIe, XIIe siècle. Voilà.
Donc après cette présentation des grandes époques, hein, des grandes périodes du développement du bouddhisme Chan, je vais revenir à la période des temps. Qui est la période, donc ça vous pouvez regarder le tableau que je vous ai donné. Donc prenons, vous vous souvenez, c'est le sixième patriarche. Et à partir de lui, donc la lignée, vous l'avez ce texte, la lignée s'interrompt. Donc à partir de lui, la lignée s'interrompt et on voit se multiplier les implantations d'écoles territoriales qui n'ont pas de nom particulier, mais qui vont se former autour de grands maîtres. Et c'est justement cette province du Jiangxi qui est au centre, cette province qui se trouve ici, qui va avoir le plus, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 montagnes, donc 6 lieux d'implantation importants pour le bouddhisme Chan. Et vous pourrez voir sur le PowerPoint, je vous avais préparé des photos prises actuellement de monastères qui se trouvent dans cette province, des anciens grands centres des grands maîtres qui sont en pleine reconstruction. Avec à nouveau, donc on peut dire que tout ce bouddhisme Chan du Jiangxi est en train de se développer à nouveau très très rapidement. Par exemple celui-ci, voilà, qui est dans le Yunzhushan, qui est le moine, qui est le temple où a vécu le dernier moine Chan célèbre de Qing, qui s'appelait Suyun, et qui est un. Alors Suyun, lui, il avait un mélange de plusieurs écoles. Mais ça fait déjà longtemps. C'est encore plus loin que l'on verra. Il y a un autre temple où il y a à la fois le temple en construction. C'est-à-dire quand j'y suis passée en 2009, voilà. Quand j'y suis passée en 2009, voilà, il était en construction. Et le moine s'est démené en allant un peu partout, à Taïwan, à Sri Lanka, au Ceylan, pour trouver aux États-Unis pour trouver de l'argent. Et maintenant. Non, encore plus, ça c'était encore à cette époque-là. Voilà, maintenant c'est devenu cela, ce grand ensemble qui a été inauguré. Vous pouvez aller à la. Voilà, qui a été inauguré en grande pompe il y a à peu près un an. Hein. Donc c'est une région qui était donc la région vraiment de l'âge d'or de ce bouddhisme avec les grands maîtres qui vont donner les cinq écoles, les cinq courants principaux du Chan. À partir de Huainan, en fait, il y a deux disciples principaux de Huainan. Nanyue, qui va donner, vous pouvez regarder sur le tableau, hein, de Nanyue Huaizhang, qui va donner Mazhu. De Mazhu, on passe à Baijiang, Yakuzhou, ensuite à Huangbo. Et dans cette lignée, vous allez avoir deux courants fondamentaux parmi les cinq courants qui se développent, l'école de Linzai, et l'école Guiyang, Yisankyo. Ça, c'est donc dans la lignée d'un disciple de Huainan, Nanyue, le maître à disciple. Voilà, on arrive à deux écoles, l'école de Linzai, l'école Linzai, et l'école Guiyang.
C'est laquelle celle-ci sur le tableau?
Celle qui est en gras là, vous avez école Guiyang, Yisankyo.
Ah, d'accord,
vous suivez, vous n'avez qu'à suivre. de Renan, vous avez un Nanhué. Puis le disciple de Nanhué, c'est Mazhou. Le disciple de Mazhou, c'est Baijong. Le disciple de Baijong, c'est Rongbo, Obaku. Et puis, on a l'école de Vinzi et l'école de Guiyang. Donc, ça, c'est pas. Il n'y a pas de transmission de Linzi à Guiyang. Hein. Attention.
Mais
ça a donné, c'est votre Isan, voilà, Isan Kyo. Et de l'autre côté, prenons un autre disciple important, Sin Yuan, Sin Se, Seigen Byoshi, donc qui va transmettre à Cheto Sitien, Sekito Kizen, qui transmet à Tien Rong Daowu, Tenno Dogo, qui transmet à Longtan Chongxin, Ryotan Soshin, qui transmet à Dushan Xuanjian, Tokusan Senkan, qui transmet à Suifan Itsun. Et Suifan Itsun est le maître de Dongshan Liangjie, Tozan Ryokai, qui est un des deux fondateurs de l'école Saodong, l'école Soto, la vôtre. Et vous voyez que cette lignée de Tinuan va donner naissance à trois des cinq courants. L'école Saodong, qui est en gras, Soto. En dessous, l'école de Yunmen, Umon. Et puis, l'école Fayen, Hogen. Voilà. Donc je passe sur toute cette période intéressante, avant la fondation des écoles, sur toute cette période où il n'y a pas que de lignées, bien sûr, il y a une multitude de lignées et de maîtres qui sont, il ne faut pas oublier que tous ces maîtres et ces disciples sont très mobiles et qu'il était rare qu'ils aillent auprès d'un seul maître. Très souvent, ils avaient d'abord un maître, puis ils allaient en voir un autre, et puis un troisième. Alors, on va passer maintenant aux cinq courants principaux du Chan, du Zen, en Chine. Donc, d'abord, l'école Saodong, ou l'école Soto. Donc, Saodong vient... du nom de deux illustres personnages, Dongshan Liangjie, Tozan Ryokai, et il a vécu de 807 à 869. Donc vous voyez qu'on est au 9e siècle, à la fin de la dynastie des Tang, cette dynastie unifiée qui va péricliter. Bientôt, la Chine va être morcelée. Et on est en plein pendant la période de la proscription du bouddhisme qui avait eu lieu en 845. Donc, ces maîtres fleurissent au moment où le bouddhisme est menacé. Et le bouddhisme Chan, lui, tire bien son épingle du jeu. Il n'y a pas que lui, mais enfin, lui, il s'en tire vraiment bien. Et c'est le 9e siècle, c'est vraiment la période où fleurissent tous ces grands maîtres. La plupart de ces écoles, de ces cinq courants, vont apparaître au 9e siècle. Il n'y en a qu'un seul qui sera du 10e siècle. Alors, vous voyez que Dongshan
et Saoshan, ce sont les noms de deux montagnes.
Qui étaient les lieux d'implantation de ces maîtres et qui se trouvent dans cette province centrale du Jiangxi. Vous voyez, le mont Dong est ici et le mont Sa est ici. Donc, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Vous voyez, c'est écrit T-U-N-G, Monton, et en dessous, Monsa, T-S apostrophe A-O. Je vous ai mis à gauche les correspondances entre la transcription que j'utilise et celle de la carte. Donc, en général, on explique le nom de l'école, Sandon, en disant on a pris le nom de la première syllabe du nom de la montagne où était installé Saint-Charles-de-Dit, et on a pris le nom de la première syllabe de la montagne où était installé le premier, Tongshan. Ce qui fait Sao-Don, ou bien So-To. C'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Tsao désignerait non pas le nom de la montagne, mais le nom du ruisseau Tsao, un ruisseau qui se trouve dans la province du Canton et qui est le lieu attaché au sixième patriarche Huainan. Et dans ce cas-là, le nom de l'école, ce serait l'école de Tongshan Liantier, qui se rattache au ruisseau de Sa, c'est-à-dire qui se rattache à la tradition du sixième patriarche. Ce qui serait presque plus logique, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas pourquoi il commencerait par le nom du deuxième plutôt que le premier. Mais d'un autre côté, phonétiquement, c'est mieux de dire Sandon que de dire Dongsa. Bon, enfin, en tout cas, voilà, je donne les deux explications du nom de cette école. Donc, soit en fonction du nom des deux maîtres, et les maîtres Chan sont presque toujours nommés d'après la montagne ou le lieu où ils étaient implantés. Presque tout le temps. Très souvent. Ça viendra. Le chan de la butokai, c'est joli. Alors, quelle est la particularité de cette école? Alors, Tongshan Liantier, le premier, est né dans la province du Zhejiang. Donc, on reste toujours dans le sud de la Chine. Hein. C'était un Chinois du sud. Et l'histoire de... C'est quelqu'un qui devient moine très tôt. Et son maître lui avait demandé d'apprendre par cœur le sutra du cœur. Hein, comment vous appelez ça? Anya Shingyo. Et quand il arrive à la phrase « Il n'y a ni œil, ni nez, ni oreille, ni langue, ni corps, ni mental », il met ses mains sur son visage et demande à son maître « Mais j'ai des yeux, des oreilles, un nez, une langue. Comment le sutra peut-il dire qu'il n'y a pas de telles choses ?» Et son maître lui répond « Je ne suis pas un maître pour toi, va voir ailleurs. » Donc il part, il va dans d'autres centres. Et il arrive auprès d'un disciple. Un disciple de Mazu. Il s'appelait Nansen. Alors vous voyez que normalement, hein, Tongshan Soto se rattache à la lignée de Qingyuan Xinse, mais ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs un disciple de Mazu, de Pacho, qui est Nansen. Puis ensuite, il va rendre visite
à Guéchan, qui est un maître de cette école, qui dépend aussi de la lignée de Mazu.
Et c'est à l'âge de 50 ans, donc, qu'il va devenir le chef de ce temple de Tongshan, et que donc son école va se développer, et que ça va être vraiment la naissance de cette école Soto.
Son meilleur disciple, donc, sera
Cao Shan Benzi, et les deux vont être considérés comme les deux fondateurs de cette école. Cette école, au fond, on peut dire qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de grande différence doctrinale entre tous ces cinq courants. C'est beaucoup plus des différences de localisation, mais quand même, la tradition a insisté sur certains points qui sembleraient caractéristiques de ces écoles. Et l'école Soto, l'école Zaodong, est surtout devenue célèbre. Ce n'était pas la plus puissante à l'époque, mais elle est surtout devenue célèbre pour sa théorie, qu'a mis au point Dongshan Lianjie, qu'on appelle la théorie des cinq positions. Hein, ça correspond à ce dessin. Vous avez donc du noir et du blanc.
Là, les cinq, on appelle ça les go-i. Les cinq positions, c'est les cinq go.
Go, c'est cinq.
I.
I, alors je ne sais pas à quoi correspond le i. Bon. Il y a plusieurs développements autour de ces cinq positions. Ça doit être Wei, c'est ce qu'on appelle en chinois Wei.
Certainement. Je traduis par position, c'est les cinq places, les cinq emplacements. Ça doit être ça. Hein? Je pense que c'est ça. En chinois, c'est Wu Wei, donc c'est Go, et puis certainement
les cinq positions. Donc le schéma représente le noir et le blanc. Dans le dessin que dont vous avez une copie, le blanc représente
ce qu'on appelle en chinois le zhang. On peut traduire par droit. Et le noir représente le qian, qu'on peut traduire par incliné.
Ça, ce sont les traductions littérales. Pian. P-I-A-N, incliné. En fait, ce qui est appelé droit, correct, c'est une représentation, on pourrait dire, de l'aspect nouménal ou absolu des choses, de la réalité, de la vérité absolue. Et Pien, ce qui est incliné, c'est le phénoménal, la vérité relative, le monde des apparences, le monde des phénomènes. Donc le blanc, si vous voulez, c'est la nature d'éveil, la nature de Bouddha. Et le noir, c'est la multiplicité des apparences. Ce dessin a été développé aussi sous l'influence des théories de l'Avatamsaka Sutra. Il faisait une différence entre le li, l'absolu, et le che, les phénomènes.
En japonais, ça se doit être ri.
Et che, je ne sais pas. Voilà.
Donc, les mots sont légèrement différents, mais l'idée est la même. L'idée de l'Avatamsaka Sutra, c'est de développer une façon de faire comprendre comment l'absolu et le relatif s'interpénètrent, ou comment, au cours du cheminement vers l'éveil, on va essayer de comprendre un aspect, puis l'autre, puis arriver à faire entrer l'expérience que l'on a de l'absolu, par exemple, dans la réalité quotidienne. Donc, c'est ça que Dongshan développe en parlant du correct ou de l'incliné, ou en parlant aussi,
il y a un autre nom qui est donné, c'est les cinq positions du prince et du ministre.
Le prince, c'est la nature de Bouddha, et le ministre, c'est le moi ordinaire.
Ce que Lindy Rinzai va appeler autrement, il va parler de l'autre, le chef, qui est toujours la nature essentielle, et le visiteur, qui est le petit moi.
Alors voici quelles sont les cinq positions développées par Dongshan. La première position, c'est les phénomènes dans l'absolu. La deuxième, ce sera... Oui. La deuxième, ce sera l'absolu dans les phénomènes. Non. C'est le premier à gauche. Hein? Phénomène dans l'absolu. Deuxième, l'absolu dans les phénomènes. Troisième, qui est celui du milieu, la venue depuis l'absolu. La venue depuis l'absolu.
L'apparition.
L'apparition des phénomènes depuis l'absolu. La quatrième, c'est aller dedans ensemble. C'est ce qui est tout noir. Et le cinquième, c'est arriver ensemble. Arriver ensemble. Aller dedans. Il n'y a rien de précis. Non, il n'y a rien de précis. Aller dedans. Et arriver. Mais là, il n'y a plus justement de distinction entre relatif et absolu. Ce sont cinq étapes qui vont présenter. Cinq états intérieurs qui se développent au cours du processus de la méditation et de la recherche de cette nature intérieure. Donc, les phénomènes dans l'absolu, c'est la position ordinaire, mais avec quand même cette idée qu'il y a autre chose que cet ordinaire. Donc il y aurait un absolu pour cette recherche de ce qu'on appelle aussi dans le bouddhisme Chan, dans le dressage du buffle. Le buffle, hein, on cherche le buffle. Donc le buffle, c'est cette nature absolue. Donc c'est la première étape. Première étape, se mettre en quête. Se mettre en quête à partir de l'expérience ordinaire, du moi que l'on a, on se met en quête. Puis, avec le calme intérieur, on a ce goût de cet absolu. On a ce goût de cette nature de Bouddha, de cette nature éveillée, qui apparaît dans le moi ordinaire, qui est une expérience que l'on a. Donc, on découvre l'absolu. Mais il y a encore distinction entre l'état ordinaire et l'absolu. Le troisième, c'est lorsque on se rend compte que, comme on le dit dans le bouddhisme Vijñanavada, tout est production de l'esprit. Donc, dans le troisième, il n'y a plus dualité entre cet absolu que l'on goûte et les phénomènes, mais on se rend compte que les phénomènes viennent de cet absolu. Ils apparaissent de cet absolu, d'une source. Il y a une source d'où les choses viennent et dans lesquelles elles vont rentrer. Elles sortent et elles rentrent. Ensuite, cette non-dualité, cette fusion entre les deux s'accroît. Ça croît de telle façon que, du point de vue de la vie ordinaire, on est dans cet état de libération, de liberté, qui fait que là aussi, il n'y a plus, on pourrait dire, besoin de faire une distinction entre méditation ou pas méditation. C'est là, c'est ainsi. On est dans cet état qu'on ne peut pas bien décrire, mais qui est là où il n'y a pas... C'est quelque chose, si vous voulez, cette expérience qui a été vécue de manière temporaire dans les phases précédentes, là, devient beaucoup plus présente. Et dans la dernière étape, arriver ensemble, ça veut dire que là, c'est vraiment l'aboutissement. Alors, il y a 5 poèmes que je peux vous lire, écrits par Dongshan, qui essayent de faire comprendre les états intérieurs qui correspondent à ces 5 positions qu'il a décrites. Et évidemment, comme on est dans le Chan et dans une démarche qui n'est pas intellectuelle, c'est l'image poétique qui va être utilisée pour essayer de suggérer cela. Alors, première étape, au début de la nuit, à la troisième veille, avant... il y a le clair de lune. Ne soyez pas surpris de le rencontrer et de ne pas le reconnaître. C'est sûrement une connaissance du passé. Donc c'est ce que je vous ai dit. On est encore dans la nuit, il y a le clair de lune. La chose apparaît, la nature intérieure apparaît, mais on ne la reconnaît pas. C'est la première étape. Deuxième étape, l'absolu dans les phénomènes. Un vieux qui vient de s'éveiller voit un ancien miroir. Ce qui est clairement reflété devant son visage n'est rien d'autre que sa propre incité. Ne perd pas encore la vue de cette face en chassant son ombre. Donc là, c'est la vue. Il a une vue, ce qu'on appelle une vue. Troisième étape, venue depuis l'absolu. Dans le néant, il y a une route loin de la poussière. La poussière, ça désigne le monde ordinaire, en général. Si tu peux simplement éviter le nom personnel du souverain, tu surpasseras en éloquence les dynasties précédentes. Quatrième position, aller dedans ensemble. Deux épées croisées ne permettent pas la retraite. Avec dextérité, comme un lotus dans le feu, il a la détermination d'arriver à l'état de Bouddha. Et dernière, arriver ensemble. Il ne tombe ni dans l'existence, ni dans l'inexistence. Mais qui harmonise cela? Le peuple souhaite sortir de ce flot incessant, mais après s'être attaché et avoir lutté, il retourne s'asseoir au chaud. Donc c'est vraiment Voilà. Il a lutté, mais finalement, voilà, il se repose. Voilà très brièvement cette théorie des cinq positions qui est beaucoup plus élaborée et qui va être encore plus développée par le disciple de Tongshan Liangjie, Zhaoshan Bunzi. Donc ça, c'est ce qui caractérise donc cette école Soto. C'est cette théorie des cinq positions. Deuxièmement, on parle dans cette école de Dhyana dans le silence. C'est ce qui caractérise cette école. Contrairement à l'école Rinzai, dans laquelle on utilise beaucoup les koans, beaucoup les dialogues, là, c'est vraiment, au fond, l'expérience du silence, de la méditation assise, qui est fondamentale dans cette école, qui caractérise plus que d'autres. On appelle ça le chan en silence. Tongshan Liangjie a enseigné trois chemins. Le chemin des oiseaux. Donc, il vient d'un dialogue. Hein. Un moine demande un jour, le maître nous enseigne à suivre le chemin des oiseaux. En quoi consiste ce chemin? Le maître répond, on ne doit rencontrer absolument rien. Comment peut-on suivre un tel chemin? On doit le cheminer sans sandales aux pieds. Si quelqu'un suit le chemin des oiseaux, n'est-ce pas voir sa face originelle? Pourquoi mets-tu tout sans dessus-dessous? Mais en quoi ai-je tout mis sans dessus-dessous? Si tu n'avais pas tout mis sans dessus-dessous, pourquoi regarderais-tu l'esclave comme un maître? Quelle est la face originelle, demande le disciple, de ne pas suivre le chemin des oiseaux? Donc ça, c'est typique des dialogues Chan qui doivent être compris quand on le remet dans le contexte de cette tension qui a lieu en situation dans ce face-à-face entre le maître et le disciple. Mais ce qui est à retenir, enfin, ce qui est caractéristique de ce chemin des oiseaux, c'est justement on ne rencontre rien. Et c'est la démarche fondamentale de cette école, de l'assise en silence. Hein, on s'assied, on médite jusqu'à ce qu'on ne rencontre plus rien. Tant qu'il y a quelque chose, il faut continuer. Deuxième chemin, le chemin secret. Et troisième chemin, le chemin des mains ouvertes, c'est-à-dire le chemin de l'altérité. Le chemin pour le salut d'autrui. Enfin, il y a trois principes de base. Qui caractérise cette école. Le premier, c'est l'activité de taper et chanter ensemble. C'est-à-dire que c'est taper pour scander. Taper pour chanter ensemble. Donc c'est ce qui désigne justement l'importance dans cette école de cette relation maître à disciple. Le maître et le disciple doivent arriver à s'accorder à ce que la rencontre, la confrontation soit une véritable confrontation, comme on dit, entre quatre yeux ou entre quatre oreilles. Deuxièmement, c'est la serrure d'or qui désigne en gros la relation forte que l'on doit maintenir avec le Bouddha. Et troisième principe,
ne pas tomber dans la distinction ordinaire, personne ordinaire et sage ou personne éveillée.
C'est une des écoles parmi ces cinq courants qui insiste beaucoup sur l'aspect vraiment, je vais dire, vil, quotidien, ordinaire de la sainteté. De secret ? Oui, ça s'appelle, c'est les deux, serrure d'or, chemin secret. L'expression complète, c'est ça, serrure d'or, chemin secret. Chemin secret, non pas parce qu'on le garde secret, mais parce que c'est ce qui est le plus évident et que l'on ne voit pas. Voilà. C'est secret dans le sens de chemin plutôt mystérieux ou insondable. Voilà.
Ça va, tout le monde a suivi ? Ouais.
Alors, la deuxième, c'est jusqu'à quelle heure ? 4 heures ?
4h30.
4h30, bon, ça va. Donc la deuxième école, deuxième courant important, c'est l'école de Linzi ou l'école de Rinzai. Donc contrairement aux autres, Linzi est un personnage du Nord. Il est né dans le Nord de la Chine. Et c'est dans le Nord qu'il s'installera et que son école fleurira. Donc il est né dans le Nord, plutôt le Nord-Est de la Chine. Et donc lui, vous vous en souvenez, il est dans la lignée, vous pouvez regarder les lignées, il est dans la lignée de Basho et de Huangbo. Donc son maître direct, c'était justement Huangbo. Un jour, donc, il demanda à Huangbo quelle est l'idée de la venue de l'Ouest de Bodhidharma. C'est une question qu'on retrouve constamment dans les textes Chan. C'est une façon de dire quel est le sens, la quintessence de ce que transmet cette école du Chan. Huangbo le bâtit, le bat, hein, lui donne des coups. Et il pose trois fois sa question et trois fois il est battu. Donc Linzi s'en va et Huangbo lui conseille d'aller voir un autre moine qui s'appelait le moine Dai. Donc il va voir le moine Dai qui lui dit « D'où viens-tu ?» Et Linzi lui dit « Je viens de chez Huangbo. »« Ah bon ? Et quelle instruction t'a donné Huangbo ?» Donc Linzi lui rapporte que le fait qu'il a posé trois fois la question et à chaque fois il a reçu des coups de bâton et il dit « Je ne comprends pas quelle faute j'ai commise, pourquoi est-ce qu'il m'a donné des coups ?» Et Dayu lui dit alors « Eh bien ce vieux Huangbo, il avait vraiment un bon cœur de vieille grand-mère, il a pris tant soin de toi, tu es trop bête et tu me demandes encore quelle faute tu as commise. » Et il paraît qu'à ces mots, Linzi a connu l'éveil. Donc on est là, cette histoire, je voulais la rapporter parce qu'elle est importante pour comprendre le style de l'école de Linzi, de Rinzai. Huangbo est un des premiers, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers à avoir utilisé d'autres moyens que le discours pour faire passer un message à son disciple ou pour susciter une réaction quelconque chez le disciple. Donc ces moyens, on va les voir, vont être très développés avec l'école de Linzi, avec l'école de Rinzai. Alors, quels sont les principes développés dans cette école ? Bon, je vous conseille évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire les entretiens de Lindsay qui ont été traduits par Paul de Miéville et qui montrent bien justement comment œuvrait Lindsay dans ses rapports avec ses disciples. Donc, premier point qu'on retrouve assez souvent dans les dialogues, dans les entretiens de Lindsay, c'est cette idée de l'homme sans situation ou sans position. C'est le même terme que le terme position utilisé dans les cinq positions de Soto, de l'école Soto. L'homme sans position. Donc voici un dialogue typique à propos de cet homme sans position. Donc Lindsay monte en salle, il va faire un sermon et il dit « Sur votre tas de chair rouge, il y a un homme vrai, sans position, qui sans cesse sort et entre par les portes de votre visage. Voyons un peu ceux qui n'ont pas témoigné. » Alors un moine sort de l'assemblée et demande « Comment est cet homme vrai sans position ?» Le maître descend de sa chaire, il empoigne le moine, qu'il t'a immobile, et lui dit « Allez, vas-y, dis-le toi-même, dis !» Le moine hésite, le maître le lâche et dit « L'homme vrai, sans position, c'est je ne sais quel bâton à sécher le branc, à sécher la merde. » Et il retourne en salle. Donc l'homme sans position, c'est évidemment là aussi une référence à cette nature de Bouddha, cette nature essentiel, qui va et vient par les portes du visage, c'est-à-dire qui va et vient par les organes des sens. Et il finit en disant « c'est je ne sais quel bâtonnet à sécher le branc ». C'est aussi une des caractéristiques de Lindsay. Il n'est pas le seul, mais lui a beaucoup employé ce moyen qui est de dire que la nature de Bouddha n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui aurait des qualités merveilleuses, et que cette nature de Bouddha, elle se trouve partout, y compris dans les choses les plus viles. Donc on retrouve, au fond, ce que je vous ai dit à propos de l'école Soto, qui disait qu'il ne fallait pas faire de différence entre l'homme ordinaire et l'homme saint. Là, de la même façon, mais il le dit autrement, Lindsay rappelle que cette nature intrinsèque, elle n'est pas autre que les phénomènes, elle n'est pas autre que ce que l'on perçoit par les organes des sens. C'est ce que vous lisez dans le Sutra du cœur. Elle n'est pas autre que les organes de sens. Et tous les phénomènes, quels qu'ils soient, sont les ornements de cette nature essentielle. Deuxième. Deuxième principe sur lequel les maîtres postérieurs ont glosé, ont commenté, c'est les quatre rapports entre l'hôte et le visiteur. C'est-à-dire entre la nature de Bouddha et le petit moi. Et c'est aussi une façon différente des cinq positions de Tsardong, mais c'est aussi une façon de décrire une progression ou en tout cas des aspects des états intérieurs par lesquels on passe au cours de la méditation. Donc le premier dit on supprime l'homme mais pas l'objet. C'est-à-dire, cette notion de moi, d'idée, disparaît, mais le monde extérieur est encore là. Deuxièmement, on supprime l'objet, mais pas l'homme. Là, c'est le contraire. Alors, dans les états de concentration, même de samadhi, on peut être coupé des organes des sens et le monde extérieur n'est plus là.
On supprime les deux. On supprime le sujet et l'objet. Et enfin, on supprime aucun des deux.
Un autre maître a dit, quand vous progressez, à un moment donné, les montagnes ne sont plus des montagnes. Puis après, les montagnes redeviennent des montagnes. Donc, c'est aussi cette idée que dans cette démarche où on essaye de sortir de cette dualité, tantôt il y en a l'un qui disparaît, tantôt l'autre, tantôt les deux, tantôt rien du tout. Rien du tout étant évidemment la situation quand les montagnes redeviennent des montagnes, mais ce n'est pas les mêmes que les montagnes du départ. Enfin, c'est les mêmes, mais bon, voilà. Entre-temps, il y a une évolution. Bon, il y a beaucoup d'autres points, mais je vais peut-être m'arrêter là pour les points.
Alors, les méthodes. Donc, les méthodes de Lindsay, eh bien, c'est le paradoxe ou
l'iconoclasme. C'est-à-dire, très souvent, il va prendre le contre-pied de ce que dit le disciple, non pas pour exprimer une opinion, mais pour sortir le disciple de son habitude, lui faire lâcher prise sur un élément particulier. Il va utiliser aussi, il va essayer d'acculer le disciple dans une impasse. De faire en sorte que tous ces doutes se condensent, hein, pour qu'il arrive à un point où cette tension intérieure est telle qu'il n'a plus d'issue. Et c'est à ce moment-là que le maître va utiliser des moyens comme le coup de bâton, comme le cri, comme quelque chose de surprenant pour que cette impasse s'ouvre, que tout lâche d'un seul coup, et que tous ces doutes se dissolvent d'un seul coup. Un maître, je crois que c'est Nanxuan ou Nansen, dit qu'il a eu l'expérience comme si d'un seul coup le fond du seau lâchait. Un seau SEAU. Hein. D'un seul coup, hop, tout lâche, le fond du seau lâche. Voilà. Et Lindsay dit très souvent, pas de doute, pas d'erreur. Et ça, c'est une des caractéristiques du Chan, c'est de beaucoup insister sur le doute. L'expérience, tous les sutras, tous les textes, tous les raisonnements ne sont pas à supprimer, bien sûr, ce serait un contresens, mais ce sont simplement des moyens habiles qui sont l'expérience, qui sont des aides, qui peuvent être l'expérience d'autrui, mais ça n'a aucune valeur tant que ce n'est pas une expérience personnelle. Et donc, à la base de cette démarche et de cette expérience personnelle, il y a le doute. Douter de tout, y compris du maître. C'est vraiment caractéristique aussi des relations maître à disciple dans cette école, et c'est très marqué dans l'école de Lindsay de Rinzai. Et donc, le doute jusqu'à ce que tous les doutes soient résolus ensemble, c'est-à-dire que l'éveil soit là. La troisième école, l'école de Guiyang, Ikkyo, donc tire son nom aussi de deux maîtres, Guishan Lingyo, Issan Reiyu, il manque un U dans le, ce que je vous ai donné. Voilà, Issan Reiyu. Voilà. Et Gueshan Ninyo en chinois. Et le deuxième, Yangshan Huizi, Kyozan et Jaku. Donc, qui ont vécu, vous voyez, on est le 771-853, mais toujours au 9e siècle. Je vous rappelle que la proscription du bouddhisme, c'était 845. Et qu'ils sont à peu près contemporains de Linzi. Linzi, on n'a pas ses dates exactes, mais serait mort vers 866. Donc on est vraiment à la même époque. Mais le premier, Gueshan, a été disciple de Baijong. Il y a toujours. Qui était lui-même disciple de Mazu, hein, de Basho. Gueshan est né dans la province du Fujian, c'est-à-dire dans une des provinces du sud. Voilà, ici, hein, vous avez le Fujian. Voilà. Donc c'est aussi un homme du sud qui va étudier avec Baijong. Donc Baijong, lui, était dans cette province du Jiangxi. Vous voyez, il passe de cette province-ci à l'autre. On reste toujours dans le sud. Et le deuxième, Yangshan Huizi, Kyozan et Jaku, donc, étaient son disciple. Et son école, donc, c'est le deuxième, Yangshan, qui va développer cette école. Et là aussi, vous voyez que Gui Yang est formé du nom de la première syllabe de la montagne du premier, Gueshan Linyo. Je rappelle que Shan, ça veut dire montagne en chinois. Donc, Gueshan, c'est le nom de la montagne. Gueshan, Linyo, c'est son nom de maître. Et le deuxième s'appelait Yangshan Huizi. Donc, Huizi de la montagne Yangshan. Donc, Gueshan Linyo a eu comme disciple Yangshan Huizi. Et les deux, Gui et Yang, ont donné cette école. Donc, cette école est apparue à partir du disciple Yangshan Huizi, qui, lui, s'est installé dans la province du Jiangxi. C'est l'image que je vous avais vue de ce temple qui était en construction il y a 3 ans et qui maintenant est complètement reconstruit. Donc, c'est une montagne qui se trouve dans la province du Jiangxi. Donc, la même que même province que les autres qu'on a vus jusqu'à présent, sauf Linzi. Hein, Linzi, lui, était dans le nord. Donc, cette école qui est dans la lignée de l'école de Linzi, de Rinzai, hein, se caractérise par une influence encore plus grande que dans... dans les écoles précédentes, de la relation entre le principe, qu'on appelle le principe et l'activité. Le principe, c'est-à-dire l'absolu, le nouménal, et l'activité, c'est sa manifestation dans l'activité, dans le mouvement. Et on comprend bien les dialogues du Chan que si on les remet toujours en situation. Hein, quand Baijong, quand un disciple demande à Baijong quel est le sens de la venue de Bodhidharma, et que Baijong lui répond le cyprès dans la cour, c'est très simple. Ça veut tout simplement dire que son disciple est complètement pris dans son état de concentration. dans son doute, dans sa quête, et que le maître va le ramener à l'instant présent, à la situation, plutôt que de réfléchir, de se projeter, d'être dans ce conceptuel, justement, de vivre complètement dans l'instant présent, cette présence de l'absolu dans l'instant présent, y compris dans les choses que l'on perçoit par les organes des sens. C'est ce que disait Rinzai, il y a un homme sans position qui va et vient par les portes du visage, c'est-à-dire par les organes des sens. Donc, ces dialogues, il faut les remettre dans cette situation. Et cette école Guiyang utilise beaucoup ce principe de, quand un disciple pose une question, de le remettre en situation, ou bien, au contraire, d'utiliser les occasions quotidiennes pour donner un enseignement. Je vous donne un exemple. Un jour, Guishan, donc le maître, cueille des feuilles de thé et il dit à Yangshan, donc à son disciple, « Toute la journée, j'ai entendu ta voix, mais je n'ai pas vu ton corps. » Yangshan secoue le théier. Guishan dit « Tu es parvenu à l'activité, mais tu n'as pas encore réalisé le principe. » Yangshan demande alors « Et que diriez-vous, maître ?» Guishan reste silencieux. Et Yangshan dit « Le maître a atteint le principe, mais n'a pas réalisé l'activité. » Et Guishan lui dit « Bon, ça va, je t'épargne 30 coups de bâton. » Donc c'est un jeu, voilà, entre le principe, hein, donc cette expérience, et la mise en œuvre immédiate, hein, sans réflexion, mais immédiate et rapide, sans intermédiaire, dans l'activité quotidienne. Cette école se caractérise aussi par l'importance des femmes. C'est une des rares occasions dans laquelle il y a des femmes célèbres, hein, qui ont été gardées dans l'histoire, dont le nom nous est parvenu. Dans l'école de Linzi aussi, dans l'école de Rinzai, il y a quelques femmes qui apparaissent, mais enfin, en général, ce sont des vieilles femmes qui sont là. On voit bien que elles ont...
Leurs noms ne sont pas parvenus.
Ah oui, non, mais on dit vieux. C'est bien marqué, c'est bien dit là-haut. Oui, oui, oui. Non, non, elles sont bien qualifiées de vieilles.
Il faut bien que la sagesse arrive.
Ce qui en Chine, c'était aussi un signe de vénération, hein, une vénération pour les vieilles. Alors là, chez Yangshan, ce sont des jeunes aussi. Hein. Voilà. Donc il y a une jeune, il y en a une qui s'appelait Miao Xin, foi merveilleuse, qui est devenue une disciple de Yangshan et qui est très connue. Donc on a gardé une biographie et il y a au moins 2-3 noms de femmes célèbres qui restent dans cette école.
Il faudra nous donner les noms un peu.
Mon ego. Écoutez, vas-y, j'ai que des noms chinois. En fait, son nom, ça veut dire. Donc, c'est son nom de bouddhiste. Elle s'appelle Foi prodigieuse, Foi merveilleuse.
La femme à la foi merveilleuse. Voilà. Puis, il y en a d'autres. Mais il y a. Si vous lisez l'anglais, il y a un livre magnifique qui est paru de femmes Chan, plus tardives du XVIIe siècle, avec leur histoire, leur biographie, leur dialogue, leur poésie. Et c'est de toute beauté. Et on voit qu'à cette époque, les femmes, elles dirigeaient un monastère Chan et avaient une certaine position. Alors que là, non, en fait... C'est ce qu'un spécialiste du bouddhisme Chan, qui s'appelle Bernard Faure, a mis le doigt sur le fait que, bien que le Chan prône la non-dualité et l'égalité, dans la réalité de l'histoire, on ne voit pas de femme maître, c'est très rare. Enfin, il n'y en a pas, dans les lignées, il n'y en a pas. Sauf au XVIIe siècle, où justement on voit apparaître quelques femmes qui sont introduites dans les lignées. Voilà. Bien, ben je pense que je vais peut-être m'arrêter là, parce que tant pis pour les autres écoles. Si vous avez quelques questions
à poser. Sur les autres écoles.
Voilà.
On a quelques éléments sur l'enseignement. Là. Donc certains vers le bas qui peuvent vous rappeler des choses. Soit sur d'autres éléments que Catherine a abordés.
Donc si, peut-être un mot quand même de l'école Lundmann, l'école Ummon. Parce que, voilà, première chose, ne pas prendre de notes. Ça, il insistait et il disait, mais vous voulez me vendre mon enseignement, vous prenez des notes et après, vous allez vendre mon enseignement. Donc, ne pas prendre de notes, ça, c'était
c'est pas une valeur pédagogique,
un ça, point. Et surtout, donc, je vais vous dire un mot parce que c'est le précurseur des koans. C'est-à-dire que c'est vraiment après lui que l'on va utiliser ces petits dialogues instructifs entre maître et disciple comme exercice qu'on donne aux disciples sur lequel ils se concentrent nuit et jour, qu'ils gardent des années et des années, jusqu'à ce qu'ils puissent justement exercer son doute jusqu'à le plus possible sur ces petits dialogues pour essayer justement de faire lâcher le fond du seau et d'arriver à ne plus se poser de questions. Au fond, hein, notre grand malheur, c'est toujours poser des questions et ne pas être là dans l'instant présent. Et donc les koans, bon, ça, je pense que vous les connaissez, vous en connaissez certains. Bon, il y en a toutes sortes. Il y a quel est le son d'une seule main. Quand vous arrivez au bout d'une perche, faire un pas de plus. Un homme est attaché par les dents à une branche et en bas de l'arbre, quelqu'un lui demande « Alors, quel est le sens de la venue de Bodhidharma, de l'Ouest ? Comment faire ?» S'il répond, il perd la vie. S'il ne répond pas, il méprise celui qui lui pose une question. Que faire ? Voilà. Donc, c'est le type de situation absurde intellectuellement et sur lesquelles on peut réfléchir. Voilà. Et l'école, donc lui aussi, insiste sur l'enseignement dans les tâches les plus ordinaires. Mais bon, c'est un point qui a été mis en avant par les maîtres postérieurs, par les successeurs. Mais ce n'est pas vraiment propre à Lundmann. Tous les autres maîtres insistaient sur cet enseignement dans le quotidien et dans les tâches les plus ordinaires. Il y a des images très connues de deux moines qui s'appellent Ranshan et Shede. Il y en a un qui était cuisinier, l'autre qui balayait. Il est représenté avec un sourire niais, béat, tout content. Bon, sous des dehors un peu niais, un peu idiot, un peu de mendiant, en fait, ce sont des saints. Et ce sont des personnes qui ont été éveillées dans les tâches les plus ordinaires, puisque l'un balayait et l'autre était cuisinier. Donc il y a cet accent qui est mis aussi dans cette école du Chan sur cette idée que toute occasion est une occasion d'éveil, d'une part, et d'autre part que la contemplation seule ne suffit pas, hein, c'est ce que dit l'école Guoyang, principe et activité, hein, faut toujours mêler les deux, et c'est Baijong d'ailleurs, je crois, c'est Baijong, Yakujo, qui tous les jours faisait son jardin, et arrivé à sa vieillesse, ses disciples lui disent, vous êtes un peu vieux, c'est plus la peine, ne faites plus le jardin. Et il lui cache ses outils. Et Baijong est resté une journée sans manger, en disant, bon, je ne travaille pas, je ne mange pas. Voilà, donc les disciples lui ont rendu ses outils. En tout cas, c'est une histoire qui montre cette importance accordée aussi à l'activité quotidienne. Et la dernière école, l'école Fayen, c'est une école qui est plus tardive. Hein, donc là, à cette époque, la Chine est à nouveau morcelée en plusieurs royaumes. Elle a été très prospère de son époque et après, elle s'est éteinte assez rapidement. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement les deux écoles, Soto, Rinzai et Ummon, trois en fait, Ummon, qui sont encore très vivantes en Chine. Les autres n'existent plus.
Oui. Le Bouddhisme appartient du sixième patriarche.
Oui. On est passé dans l'âge d'or, oui. Oui, là où il était le plus développé, le plus enseigné. J'entends par âge d'or, là où il se développe, en se répartissant un petit peu dans toutes les provinces de Chine et en devenant très répandu.
Donc ça, c'est après le sixième patriarche.
Après le sixième patriarche. Oui, oui, ben, il y a un changement dans la mesure où il n'y a plus de lignée, mais paradoxalement, c'est là où les écoles fleurissent et où les maîtres s'en donnent à cœur joie, je pourrais dire, avec en se répartissant dans toutes les provinces. Et le véritable âge d'or, c'est plus tard, c'est les Song. C'est à partir du 11e, 12e, 13e siècle.
Et l'enseignement est le
même. On ne peut pas dire que l'enseignement est le même, parce que ça a évolué tout au long de l'histoire. Tout au début, si vous voulez, le bouddhisme Chan s'attache au Lankavatara Sutra et au Dhyana. C'est-à-dire à cette façon progressive de contempler et de purifier l'esprit. Puis après, il va ajouter à cela toute la théorie de l'aprajña, la sapience, de la vacuité et l'importance sur cette vision directe, immédiate. Puis après, dans cette période que j'appelle l'âge d'or, il y a une influence de l'école de l'Avatamsaka, il y a une influence aussi de l'école Tiantai. Il y a même des théories de l'école ésotérique qui vont être intégrées dans ces écoles du Chan. C'est pas si pur que ça, si vous voulez, hein. Sans arrêt.
On dit aussi que le taoïsme a une influence sur le Chan, et ça serait à quelle période?
Ce serait à peu près à partir du 5e, 6e patriarche. Jusqu'au quatrième patriarche, le Chan est très proche du Lankavatara Sutra et du bouddhisme. À partir du cinquième, sixième patriarche, quand le Chan se sinise, quand il vient vraiment plus chinois dans sa forme, dans son essence, le taoïsme intervient. Parce que à ce moment-là, les lettrés, les fonctionnaires de la Chine sont beaucoup en relation avec les moines. Ils vivent beaucoup dans les montagnes, ils vont écrire des poèmes avec les moines. Donc il y a un échange entre lettrés et moines. Et ces moines qui vont être les maîtres du Chan à cet âge d'or, ce sont des lettrés, puisqu'ils sont reçus à la cour, ce n'est pas n'importe quel moine. Ce sont des moines qui sont érudits, qui sont lettrés, qui connaissent aussi la culture chinoise. Donc à ce moment-là, il y a, si vous voulez, des débats, des poésies, des textes, ils s'envoient des lettres, les lettrés envoient des lettres à des moines pour poser des questions, etc. Et dans ces débats, progressivement, il y a une influence du taoïsme.
Qu'est-ce qu'il a apporté exactement, le taoïsme?
Le taoïsme, il n'a rien apporté de plus. Il a simplement mis en évidence des points qui existent dans le bouddhisme général, mais qui étaient exprimés différemment dans le taoïsme. Par exemple...
Existait avant.
Oui, Lao Tzu existait avant. Oui, bien sûr.
Donc, c'est pas plutôt le bouddhisme
qui a interpénétration. Mais, par exemple, pour vous donner un exemple, Lao Tzu dit que le Tao est inexprimable et que le langage est un moyen inadéquat pour rendre compte de l'expérience ultime. Ça, c'est un point qu'on voit beaucoup dans le bouddhisme Chan, qui va justement développer des moyens autres que le langage. Et ça, on n'a pas d'exemple dans les textes bouddhiques du bouddhisme de ce type de méthode, sauf après, mais pas à l'époque, pas au 5e, 6e siècle, si vous voulez. Donc il y a des choses comme ça, il y a cette insistance sur le lâcher prise, hein, sur ce qu'on appelle le wu-wei, le non-agir. Mais là encore, le wu-wei n'est pas non plus quelque chose d'inconnu dans les sutras bouddhiques. Le sutra de Vigmanakirti insiste beaucoup aussi sur ce lâcher prise.
Et le cercle du tarot Tekin symbolise assez parfaitement les cinq conditions.
Alors, le cercle du Taiji, on pense que le cercle du Taiji
qui se fait comme ça aussi, comme vous avez là, avec des traits noirs et blancs, on pense que le cercle du Tai Chi a été influencé par le dessin des cinq positions de l'école Soto. C'est le contraire. Et le Tai Chi, oui. Non, les cinq positions, historiquement, les cinq positions sont attestées avant ce dessin-là. Ce dessin, il apparaît sous les Song au XIe siècle.
D'accord.
Et les cinq positions, c'est un petit peu avant.
Excusez-moi,
oui.
Un petit peu différent façon d'enseigner.
Oui, oui, bien sûr, l'enseignement de base, le fond est le même.
Le fond est le même, c'est juste les façons d'enseigner qui sont.
Absolument, absolument. Il n'y a pas de discussion, il ne peut pas y avoir de discussion idéologique entre ces écoles. C'est simplement une façon de mettre l'accent sur telle ou telle méthode ou tel point de théorie qui semble plus important qu'un autre.
Ah, au début, c'était une façon d'enseigner. C'est
non, non. Non.
Au début, au Sien Patria, c'était une façon. Après, là, il y a plusieurs façons.
Non, non, non. Dès le début, chaque maître va avoir sa façon particulière, va développer sa façon particulière dans ses maîtres.
Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est quoi différent?
La différence est une différence d'histoire, tout simplement. Si vous voulez, on a établi des liens de maître à disciple. Chacun de ces maîtres et de ces disciples a laissé des écrits. Dans ces écrits, on voit bien que le fond de l'expérience, le fond de la théorie est le même. Mais chaque texte, chaque document va développer un point particulier. Par exemple, le quatrième patriarche va insister sur ce qu'il appelle le samadhi de l'activité unique. Et bon, il va développer ce que ça signifie pour lui, etc. Donc, chacun va apporter un éclairage sur une notion qui lui semblera plus importante. Il n'y a pas vraiment de contradiction entre ces écoles. Ces écoles se sont formées pour des raisons politiques, pour des raisons d'influence, pour des raisons, parce que tel maître connaissait tel lettré qui pouvait écrire les textes, consigner leurs dialogues, les faire imprimer ou les faire copier. On a des témoignages de ces maîtres, mais à côté de ça, il y avait d'autres maîtres qui enseignaient la même chose.
C'était jusqu'au 6e patriarche.
Juste tout au long de l'histoire. Le sixième patriarche, il insiste sur l'idée que Dhyana et Prajna, la concentration et sapiens vont ensemble. C'est-à-dire, il insiste beaucoup plus sur la notion de vacuité et l'idée que l'éveil est quelque chose de subi.
D'accord.
À partir de là, on distingue 10 écoles. Avant d'arriver aux 5 courants que je vous ai donnés. Enfin, dans cette période d'âge d'or, les textes distinguent 10 écoles du bouddhisme Chan, qui sont l'école de Matsu, l'école de Baijan, l'école, etc. Chaque école va être caractérisée par une phrase ou un point particulier. Ce qui caractérise l'école de Matsu, par exemple, c'est l'esprit ordinaire, c'est la voix. Ce qui va caractériser un autre, ça va être ne pas s'appuyer sur les écritures, etc. Et puis, pendant toute cette période, vous voyez bien que les maîtres se rencontrent les uns les autres et qu'un disciple n'a pas qu'un seul maître, et qui va voir des maîtres de toutes les branches. Ce n'est pas uniquement une lignée verticale. Ils vont se promener dans toutes les montagnes, ils trouvent un maître qui leur plaît, et ils apprennent avec ce maître. Donc ils vont tirer un enseignement de ce maître qu'ils vont intégrer dans leur propre enseignement. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer.
En fait, c'est différent, mais le
fond est le même.
Avant, c'était une lignée comme ça, pour le voir, après c'est venu, c'est éparpillé.
Voilà, avant c'était une lignée, enfin, c'est ce qui a reconstruit l'histoire. Dans les faits, il n'y avait pas une seule lignée, il y avait plein de maîtres.
Mmh. Bon, après, vous pouvez essayer patriarche avec plusieurs.
Donc après, c'est un réseau, si vous voulez, un réseau avec 10 foyers principaux. D'accord. Et puis, après, ces 10 foyers vont être réduits à 5.
D'accord. Le fond est le même.
Le fond est le même. Le fond est le même. De toute façon, le fond est le même, il n'y a qu'une nature de Bouddha et cette idée que le chal, c'est l'expérience directe avec cette aide de la relation maître-disciple.
C'est juste la façon aussi
différente. Tout à fait, absolument.
D'autres questions ?
Moi, j'avais lu ou entendu à quelque part que bon, dans le bouddhisme ancien ou plus traditionnel qui n'est pas chinois, il y a la recherche du le moi n'existe pas. Et j'ai donc entendu dire qu'en Chine, ben, les Chinois n'avaient pas voulu renoncer à la notion de personne et d'individuation. Alors je ne sais pas, je ne sais pas t'en penser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, je comprends, mais non, ça c'est pas vrai. En Chine, le moi n'existe pas. En fait, on ne peut pas dire que le moi n'existe pas.
Dans
l'absolu, la vacuité, le moi est formé d'agrégats, c'est tout. Il est temporaire.
Oui, mais dans l'absolu, j'ai oublié de dire dans l'absolu, la dissolution du moi, dans l'absolu.
L'absolu, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de moi. D'oublier, je ne sais plus qui a dit, c'est la cinquième des positions. Hein. Quand vous n'êtes ni dans l'existence, ni dans l'inexistence, que se passe-t-il ?
C'est Nagarjuna.
C'est Nagarjuna. Absolument. Non, mais c'est important parce que je pense que beaucoup de personnes font des contresens et disent dans le bouddhisme, il n'y a pas de moi. Ben non, c'est pas ça du tout. Au contraire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de moi. C'est-à-dire simplement que le moi est quelque chose de restrictif, de relatif et que...
C'est le
visiteur. Mais le soi non plus n'existe pas. La difficulté, c'est que très souvent, on pense que le soi ou toute expérience avec l'éclatement du sujet, c'est bien ce que dit Yinsi, que cette expérience-là serait la nature d'éveil. Non, ça, c'est pas la nature d'éveil. C'est tout simplement le calme complet, parfait, de la sixième conscience qui fait que cette notion de moi n'agrippe plus les choses. Mais on n'en est pas encore à la nature d'éveil.
Oui, parce qu'à l'instant où il y a éveil, il ne peut pas exister quelque chose qui constate cet éveil.
Absolument.
D'accord.
Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît justement dans des dialogues entre maître et disciple, où un maître dit « mais je ne suis pas éveillé ». Il ne peut pas dire « je suis éveillé ». Ce n'est pas possible.
Moi, j'ai une question plutôt...
L'histoire ?
À ce moment-là, à un moment, vous disiez que au milieu du 18e siècle, après que l'impératrice est...
Vous se tienne, oui.
Il y avait la dynastie Tang qui était divisée en deux.
Oui. Alors, elle n'a pas été divisée en deux, c'est la dynastie Tang. Il y a une première partie. Et puis, il y a ce qu'on appelle la révolte d'Anushan. Qui était un général sogdien, donc qui venait d'Asie centrale, qui a pris la capitale et qui a régné pendant 6 ans. Alors c'est autour de 762. Et après, il y a une deuxième partie des Tang. Donc c'est toujours, la Chine est toujours unifiée. Seulement, il y a seulement eu une interruption de 6 ans, mais cette interruption a affaibli complètement la Chine. Donc après, dans la deuxième partie, vous voyez, le pouvoir central est beaucoup moins fort que dans la première partie. Ce qui permet une plus grande liberté à tous ces maîtres du Sud. Voilà.
Est-ce que vous savez si les moines japonais ont pu avoir une lecture des textes indiens, finalement, sans le passage par la Chine ?
À ma connaissance, non. Ma connaissance, tout est passé par la Chine. Chine ou Corée. Il y a certains textes qu'ils ont obtenus des Coréens. Donc de la Chine, c'est passé en Corée, de Corée au Japon.
Justement, comment le bouddhisme indien est-il passé en Chine? Il est passé par la route de la soie, mais pour la traduction. Car la mentalité indienne est fort différente de la mentalité chinoise.
Alors, il y a eu plusieurs périodes. En gros, il y a eu trois périodes de traduction. Dans la première, c'est un peu du bricolage. C'est-à-dire, ce sont les étrangers qui récitaient par cœur les textes. Oui, surtout, il y avait des bilingues qui traduisaient et puis des Chinois qui mettaient par écrit. Et après, ils revoyaient un petit peu, etc.
Et alors, comment définissez-vous, par rapport aux Chinois ou par rapport aux Chan, la notion de Shunyata, de vacuité ? La vacuité, vous nous en avez parlé, comme
oui.
Une caractéristique près du sixième patriarche.
Oui.
Comment se définit-elle ? Parce que moi, je connais l'incarnation, mais...
Alors, ils ont traduit tout à fait tous les textes de Nagarjuna, de l'école du milieu, sur la vacuité. Donc la vacuité, ils l'ont traduit par un mot chinois kong, qui veut dire vide, à la fois vide et espace. Et il expliquait en disant qu'il y avait 18 sortes de vide. Et donc... 18
sortes de vide.
Oui, mais comme le fait Nagarjuna, comme c'est écrit dans les textes de la Prajnaparamita, dont ils ont beaucoup insisté sur le fait que cette notion de vide, enfin le vide ultime, c'est le vide qui pulvérisait la notion de vide, justement, pour arriver à ce que dit Nagarjuna, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il y a existence d'un vide, on ne peut pas dire qu'il y a non-existence d'un vide, ni les deux à la fois, c'est ce qu'on appelle les tétralèmes, voilà. Absolument. Donc ils ont traduit ces textes de manière assez fidèle. Parce qu'à cette époque, donc ça, c'est la deuxième période de traduction, au 5e siècle. Ah non, c'est encore après. Non. Ces textes sur la vacuité ont été traduits avant, en Chine. Ce sont tous les grands sutras indiens qui ont été traduits en chinois, avant. Oui, oui, ils ont été traduits dès le 4e, 5e siècle. De notre ère, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et à cette époque-là, les Chinois apprenaient le sanskrit. Il y avait des gens qui étaient allés en pèlerinage en Inde, qui en étaient revenus. Donc, leur connaissance linguistique était bien meilleure et les traductions sont assez bonnes, assez fidèles. Assez fidèles. Parce qu'après, une fois qu'ils avaient traduit, il y avait ce qu'on appelle le polisseur, c'est-à-dire qu'ils polissaient le style, puis ils relisaient le texte pour vérifier si la traduction était bonne.
Donc, il y a les distinctions entre... C'est la première paramita, mais il n'y a pas l'estance du milieu.
Il n'y a pas ?
L'estance du milieu.
Ah, si, 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 l'estance du milieu ont été traduites aussi. Ah oui, oui. Oui, oui, ça a été une école d'ailleurs, ça a été une des écoles chinoises, a été l'école qu'on appelle l'école des trois traités, parce qu'elle se fondait sur deux traités de Nagarjuna et un autre d'Aryadeva, qui avait été traduit en chinois. Mais c'est une école qui n'a pas trop pris, parce que l'esprit chinois n'est pas tellement porté sur la logique et l'analyse. Donc, ce sont des écoles qui ont eu du succès auprès des lettrés, mais qui, en général, en tant qu'école, ont eu une durée de vie assez limitée. Mais les Chinois lettrés s'intéressaient.
Le Chinois ne s'inspire plus vraiment du Madhyamika.
Si, bien sûr que si. Ah si, absolument. Bien sûr que si. Madhyamika est tout à fait connu, mais ça en inspire plus à travers la littérature de la Prajnaparamita. C'est-à-dire sans vraiment développer par l'analyse, justement. Mais la notion de vacuité, elle est omniprésente, elle court tout au long. Le sutra du cœur, qui est un des plus courts de la littérature de la Prajnaparamita, c'est le sutra qui fait partie de la liturgie quotidienne des temples à l'heure actuelle encore. Oui, aussi. Donc, toutes ces notions. Et le Chan est fondé sur les grands sutras, les grandes notions du bouddhisme. Tous ses disciples connaissaient parfaitement, lisaient parfaitement ces sutras et ces textes et assimilaient ces notions. C'est comme ça qu'il faut prendre aussi le sens de ces dialogues. Il y a un dialogue, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Dongshan Lianjie, donc le premier fondateur de Soto, qui pose une question sur les êtres inanimés, ont-ils la nature de Bouddha ou expriment-ils la bouddhéité ? Ils reprennent des points de doctrine qui sont dans l'Avatamsaka Sutra et dans le Sutra d'Amitabha, où il est dit les oiseaux expriment la loi, etc. Donc, il dit pas, cette question n'est pas posée en l'air comme ça. Il ne dit pas ben, est-ce que les oiseaux, est-ce que les êtres inanimés. Ça vient de tout ce fond culturel de Sutra qu'ils connaissent et qu'ils récitaient, puisqu'il y avait quand même des liturgies. Les moines, leur profession, c'était quand même d'être moines, donc aussi de faire les rituels pour les baptêmes, les mariages et surtout les funérailles. Donc ils lisaient aussi des textes, il y avait toute une liturgie, c'était leur métier, donc ils les connaissaient, ces textes aussi.
On a le temps pour une dernière question avant de tout emballer.
Il n'y a pas un danger normalement quand on a très loin de la méditation.
Il y a toujours des dangers. Mais vivre, c'est dangereux. Donc, si, si, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. Oui, oui, non, il y a plein de dangers. Il y a plein de dangers. Et il y a des textes en chinois, enfin, je ne sais pas s'il si doit y avoir des origines indiennes, sur les maladies du dhyana, sur les maladies de la méditation, les maladies du chan. Bien sûr qu'il y a plein de dangers. Ben, par le bon sens, par le doute, par le sens critique. Oui, on disparaît. Oui. Quelque part, oui. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais on est effectivement, on perd les repères habituels. Ce qui est un des dangers, c'est qu'on peut avoir des expériences dans lesquelles on perd ses repères habituels. Et il faut revenir dans ses repères habituels. Il ne s'agit pas de se dire, ah ben voilà, j'ai. Ben, alors, un principe de base, c'est de vous dire que tout ce que vous expérimentez, de toute façon, ça tient du phénoménal, ce n'est pas ça, et donc il ne faut pas s'y attacher. Donc si vous avez de très bonnes expériences en méditation, ce n'est pas la peine de vous y attacher, c'est tout simplement, là encore, le jeu des phénomènes. Si vous avez fait des mauvaises expériences, ce n'est pas la peine de vous y attacher, de toute façon ça passera, tout ça c'est temporaire. Donc il y a des petits points comme ça que vous pouvez garder en vous, qui font que, en principe, ce sont des garde-fous. Et si l'expérience devient très profonde, à ce moment-là, il est conseillé de se retirer momentanément de la vie active pour pouvoir se plonger, si possible, avec un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu cette expérience ou qui a une certaine expérience pour éviter justement ces dangers. Mais bien sûr qu'il y a des dangers. Un autre danger que je vois, c'est des gens qui sont complètement, par exemple, qui veulent complètement stopper les pensées. Et qui deviennent, qui se bloquent complètement. Au lieu d'aller vers la libération et la détente et la souplesse, ils sont complètement bloqués dans un vide qui est un faux vide, qui est un vide inerte. Et ils peuvent s'y accrocher. Bon, ça peut être un danger. Mais à partir du moment où vous dites ça, c'est un état, et vous continuez votre démarche, il n'y a plus de danger.
Quels sont les
Ça, c'est toute une vie, ça faut demander à.
Alors,
expérimenter. Faut pas avoir peur.
Comme annoncé, merci de remonter. Les bancs deviennent les chaises.
C'est Michel ? Non.
Jean-Claude.
On est le 9.
Super, merci beaucoup. Hein. Super, c'est vraiment génial. Alors moi j'étais persuadé que le symbole du terrorisme était bien intérieur. C'est que le 12e siècle alors.
Oui, c'est 11e, 12e siècle.
D'accord, merci beaucoup. Ouais.